pluriel, la radio curieuse de tout.
Voilà, c'était les Beatles. On continue de parler du lien social. Alors social, on a vu que ça peut être aussi amical, familial. On en a parlé à la deuxième partie. Et puis on s'est évidemment posé la question de la construction, mais aussi de la rupture du lien. Parce que, évidemment, on est tous autour de la table, enfin, et tous les auditeurs qui nous écoutent, on sait bien que les liens peuvent être rompus. Alors, on se demande comment ils peuvent être rompus, comment ils peuvent être réparés. Et donc, on était à la résidence sur ville, dont on a parlé tout à l'heure, et on a eu un échange autour de ce thème, casser et réparer le lien social. Et on va écoutez cet échange qu'on a eu avec les habitants de la résidence sur ville.
Comment on fait quand on n'a pas de famille ou très peu de liens avec eux pour avoir du lien social avec d'autres personnes? Et comment est-ce que même ces autres liens sociaux peuvent même représenter une sorte de deuxième famille pour nous?
Faire attention aux mauvaises relations qu'on peut rencontrer quand on va mal. La drogue, par exemple, qui nous donnerait de l'illusion d'aller mieux. Et puis aux mauvais gens aussi. Et il faut faire en sorte d'aller beaucoup mieux très vite.
C'est vrai que quand on ne va pas bien, on peut avoir justement pas envie de voir des gens, de maintenir les liens. On peut savoir intellectuellement que ça serait bien, mais en fait, on ne le fait pas, quoi.
Créer des liens avec d'autres gens sur la maladie.
Il faut qu'il y ait la confiance. La confiance avant tout quelque chose d'important, pour moi déjà.
Réaliser, accepter la situation mentale déjà, et après on laisse ça à d'autres. La suite, on la verra après.
Ça peut faire putsch quand on va très mal et tout. Oui, je suis d'accord, oui.
Vous allez simplement dire que quand on va pas bien, on a des réactions souvent négatives. On n'arrive pas à être, optimiste. Ça gêne surtout l'estime de soi, énormément l'estime de soi, je trouve.
Un peu tendance à nous cacher jusqu'à ce que ça aille mieux. Et ça va toujours mieux.
Quand je parlais de faire confiance, je voulais vous dire par rapport au traitement, il ne faut pas hésiter à en parler avec le CMP, les infirmiers, les infirmières. Il faut bien prendre son traitement. C'est quelque chose que je dis à tout le monde. Il faut bien prendre son traitement.
Alors moi, le lien social, j'aime bien qu'on parle de ça parce que moi, j'ai beaucoup de lien social avec mon GEM, avec mon groupe d'entraide mutuelle. Moi, là, c'est un très grand lien social que j'ai avec ces gens-là. Un très grand lien social.
L'expression réparant le lien social, oui, effectivement, il y aurait quelque chose de cassé. Moi, j'aurais plutôt tendance à voir du vide, en fait. C'est un lien qui n'a pas lieu. Et ce qui me parlerait plus, c'est une construction plutôt qu'une réparation. Donc, ce qui fait qu'une construction nécessite qu'on œuvre tout un chacun à mettre en place ce lien social. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici comme on peut, à tous les niveaux. Un lien social du quotidien, un lien social avec des projets comme ça. Un lien social très informel. Et c'est une espèce de fil rouge comme ça qu'on trouve dans toutes les zones qu'on essaie de développer, dans chaque zone ici. C'est le cœur de la vie. C'est-à-dire que voilà, s'il n'y a pas de lien entre nous, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Donc construire, je garde ça à l'esprit.
Le lien social, donc ça reste un lien. Donc il est ouvert, même pour ceux qui sont lunatiques, qui ont des sauts d'humeur, ça reste une attache.
Le lien social, construire l'avenir.
Est-ce qu'on peut comparer le lien avec l'attachement? Je pense que c'est une relation, parce que dès qu'on est avec la maman, on est dans un lien très attaché à sa mère. Et dès qu'on est, on est comme ça, on recherche du lien et de l'attachement pour être en sécurité avec sa mère, son père. Ça aide l'enfant à grandir.
Quand on est, il y a quand même le cordon ombilical hein, qui est déjà c'est le lien de départ qu'on coupe. Couper le lien social, je trouve que ça arrive dans la vie. On a des gens, on s'entend bien avec eux, on vit des choses formidables, on passe du temps ensemble. Et puis un jour, il y a quelque chose qui casse. Alors ça peut être avec un membre de la famille, ça peut être avec un ami. Et du coup, c'est une vraie question, je me dis, comment on répare? Comment on répare le lien? C'est-à-dire que le lien de départ, ok, là quand on construit une amitié, on construit le lien. Mais quelquefois, ça casse.
Ben moi, je dirais que pour réparer, ça dépend aussi de ce qu'il y avait avant. Tu vois, comme un objet, S'il est tout cassé, cassé, tu peux pas réparer. Il y a un moment, tu peux pas réparer. Et puis, c'est juste un petit trou, tu peux raccommoder, quoi.
Ça me fait penser aussi, à contrario, que parfois, c'est bien aussi de casser le lien. Et justement, il y a des liens qu'on aimerait ne pas casser, mais qui sont plus sains pour nous à casser.
Il faut de la bonne volonté.
Donc, je disais, on peut se fâcher de pouvoir revoir la personne, si c'est cassé comme ça.
Merci, François. Alors, on a pensé à propos de créer, casser, réparer le lien, un texte qu'on avait envie de lire à deux voix avec Cécilia. C'est un texte que tout le monde connaît, on vous dira après qui c'est qui l'a écrit. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. »
« Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se tourna mais ne vit rien.
« Je suis là, dit la voix, sous le pommier.
« Qui es-tu ? Dit le petit prince. « Tu es bien joli. »
« Je suis un renard, dit le renard.
« Viens jouer avec moi, lui propose le petit prince. « Je suis tellement triste.
« Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. « Je ne suis pas apprivoisé.
« Ah, pardon, fit le petit prince.
Mais après réflexion, il ajouta.
« Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?
« Tu n'es pas d'ici, dit le renard. « Que cherches-tu ?
« Je cherche les hommes, dit le prince. « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?
Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils, ils chassent, c'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules, c'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ?
Non, dit le petit prince, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?
C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens.
Créer des liens ?
Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Je n'ai pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde.
Ah, je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé.
C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses.
Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince.
Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète ?
Oui.
Il y a des chasseurs sur cette planète-là ?
Non.
Ça, c'est intéressant. Et des poules ?
Non.
Ah, rien n'est parfait, soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone, je chasse les poules, les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent, je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres pas me feront rentrer sous terre, le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Et puis, regarde, tu vois là-bas les champs de blé, je ne mange pas de pain, le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé.
Le renard se tut et regarda longuement le petit prince.
« S'il te plaît, apprivoise-moi, » dit-il.
« Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. »«
On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez des marchands, mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. » Eh bien, voilà, on remercie Antoine de Saint-Exupéry. On a tous reconnu le petit prince avec sa première discussion avec le renard qu'il va apprendre à apprivoiser. Et après, tout un mode d'emploi pour s'apprivoiser. Alors, on parle du lien social, du lien amical. Et on a écouté la discussion qu'on avait eue à la résidence Surville. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au sujet de cette histoire de lien, d'amitié ? Comment ça se cultive ? Comment on fait pour ne pas perdre le fil de l'amitié ? Guillaume, vous voulez nous en dire quelque chose ?
D'abord, un petit mot par rapport à la résidence accueil de Surville, qui est un endroit, donc on l'a déjà dit, hein, pour des personnes qui ont un parcours en psychiatrie, mais aussi des personnes qui sont en situation d'isolement. Donc, c'est vrai que l'idée de cette résidence accueil, du travail qu'on y conduit, c'est de pouvoir créer du lien entre les locataires et de pouvoir créer un lieu de vie comme ça qui soit propice à l'entraide, à l'échange, et qui sont des modalités de l'amitié.
Oui, je reprends juste la parole pour dire qu'effectivement, c'est assez impressionnant quand on vient à Surville. Et ce qu'on se disait là entre deux parties, c'est que l'architecture joue. C'est-à-dire qu'il y a une qualité aussi, je trouve, de l'architecture avec ce que vous disiez tout à l'heure avec Philippe, c'est-à-dire le rez-de-chaussée où il y a des lieux communs. Avec un petit salon, avec une cuisine où on s'est tous retrouvés pour échanger, où vous faites des petits déjeuners partagés, il y a vos bureaux, il y a peut-être d'autres pièces que je ne connais même pas. Et du coup, ben, ça fait, l'architecture joue là-dedans. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, la question du lien social, elle concerne tout le monde. C'est-à-dire que c'est aussi la qualité d'une architecture qui va permettre aussi des choses. C'est la qualité d'un son, c'est la qualité de matériaux, c'est la qualité d'un jardin, c'est la qualité du ménage, enfin, chacun a sa place en fait dans la question de l'atmosphère, de l'ambiance et de la qualité d'un lien aussi.
Oui, et c'est vrai que ces lieux communs sont des lieux dédiés à ces rencontres et à la création comme ça d'un collectif quoi, où chacun peut y mettre ce qu'il engage. Alors oui, ça va de liens d'entraide, de respect, jusqu'à des liens d'amitié qui s'y créent.
C'est ce qu'on a pu appeler à une époque le soin institutionnel, hein, où tout ce qui est autour du patient contribue au soin. Oui, alors on n'a pas présenté Fatia qui est venue nous rejoindre. Bonjour Fatia.
Bonjour à tous.
Voulez-vous présenter
Moi c'est Fatia et j'habite à la résidence de Surville depuis 3 ans maintenant et j'avoue que ça se passe bien.
Merci. Alors, on a parlé du lien, de la rupture des liens et puis de la réparation. Il y a des lieux, évidemment, qui sont dédiés quand la réparation est très douloureuse et très difficile à faire. On peut faire appel à des professionnels. Il y a des CMP, des centres médico-psychologiques. Alors, vous êtes allé les voir, Fatia ?
Oui.
Vous voulez nous expliquer ?
On est allé les voir avec quelques autres personnes. On a rencontré une infirmière très gentille qui s'appelle Sandrine et qui a répondu à nos questions.
On peut remercier d'ailleurs Julien de vous avoir accompagné. Il a porté le micro en quelque sorte parce qu'il était, il savait faire et c'est super qu'il ait pu être avec vous.
D'ailleurs, on a fait un reportage, un petit script.
D'accord, vous aviez écrit les questions ?
Oui, on a écrit les questions et puis on les a posées à Sandrine qui nous a gentiment répondu.
Et ce centre médico-psychologique, il se trouve où ?
À Vénissieux.
Et vous y allez régulièrement, en fait ?
Oui, j'y vais une fois tous les 3 mois, et je rencontre mon psychiatre, et là-bas, ben, je peux parler de mes problèmes de santé.
C'est un lieu où l'on vous suit, en quelque sorte, hein,
voilà.
Qui a une régularité de la relation.
Voilà.
C'est important pour vous ?
Oui, oui. D'ailleurs, je me sens beaucoup mieux quand je vais le voir et il m'aide beaucoup.
Eh bien, on écoute ce reportage sur le CMP. Merci, François.
Je suis Sandrine, je suis infirmière diplômée d'État et je travaille sur le centre de soins ambulatoire de Vénissieux.
Qu'est-ce qu'un CMP ?
C'est un lieu de soins qui dépend de l'hôpital psychiatrique. Ici, on dépend de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Ça signifie un centre médico-psychologique. Nous sommes situés dans la ville afin qu'il soit accessible au plus grand nombre pour nos patients. Et donc, ça dépend du lieu d'habitation de chacun. Notre CMP est aussi jumelé avec un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. C'est-à-dire que nous avons un lieu qui propose à la fois des consultations pour le soin et également un lieu qui fait des prises en charge groupales pour nos patients. Voilà. L'équipe de notre CMP est composée de psychiatres, d'infirmiers, d'assistants sociaux, psychologues, secrétaires et un cadre de santé.
Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?
Alors, je travaille sur le CMP depuis 2020 et à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu depuis 2003.
Qu'est-ce que c'est pour vous le lien social ?
Alors, pour moi, le lien social, c'est ce qui relie les gens entre eux. Donc ça peut être différents types de liens, puis avoir des liens familiaux, des liens amicaux. Ça peut être également aussi en fonction d'affinités, de centres d'intérêt que les gens peuvent avoir avec eux. Le lien social, pour moi, il mérite de s'entretenir, c'est-à-dire que les personnes doivent se mettre en lien, avoir des relations entre elles. Ça peut être par le biais de rencontres, d'activités communes, de temps passé ensemble, voilà, tous ces moments-là.
Alors, une autre question.
Oui.
Quel lien social partagez-vous avec les patients ?
Alors, selon moi, le lien social que je partage avec les patients, il se situe déjà dans les prises en charge. Ça peut se faire à deux niveaux, aussi bien lors des entretiens individuels, des entretiens infirmiers. C'est de l'écoute, le temps accordé, mais ça peut aussi être sur le temps des prises en charge groupales. Le lien social, comment dire, c'est des moments qu'on prend pour être tous ensemble, prendre du temps dans les différents types de groupes qu'on peut proposer aussi, par la présence qu'on s'accorde les uns aux autres, le temps et les rencontres qui ont lieu durant ces groupes, ces entretiens.
Et une dernière question.
Oui.
Alors, avez-vous l'impression de réparer le lien social ?
Alors, je ne sais pas si je le répare, le lien social. En tout cas, je pense essayer de mettre en œuvre ce que je peux afin de créer ou de l'entretenir, du lien social. Donc, par tous ces moments dont on parlait juste avant, les prises en charge en groupe, des moments plus informels aussi. Ça peut être des fois par des sorties organisées sur de l'extérieur, aussi bien entre les soignants que les patients. Ça peut aussi être des petits conseils pour des lieux de rencontre, comme les groupes d'entraide mutuelle, les GEM, ou même sur Lyon, les petites cantines. Voilà, ça peut être des petites adresses comme ça pour restaurer ou entretenir ce lien.
D'accord. Je vous remercie bien, Sandrine.
Mais merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
Vivre ensemble.
C'était donc un petit reportage, une interview de Sandrine au CMP, Centre médico-psychologique de Vénissieux, puisque on parle aujourd'hui du lien social et évidemment, on parle aussi des ruptures et des soins. Alors, il y a les CMP, il y a aussi d'autres lieux dont parle Sandrine à la fin, les GEM, on en parlera un petit peu plus tard. Les petites cantines ne sont pas forcément un lieu de soins, mais un lieu de lien, un lieu de lien social, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut citer comme autre lieu de soins ou de soins du lien social ?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a une myriade, on pourrait dire, de structures. La psychiatrie est sectorisée, donc elle s'occupe d'un territoire, chaque hôpital s'occupe d'un territoire, et sur ce territoire, au fil des décennies, on a construit des lieux de soins qui seront aujourd'hui plus ou moins rassemblés dans des centres de soins ambulatoires. Donc on a les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, qui sont des lieux où on peut mener des activités souvent en groupe, ce qui permet déjà de se relier à d'autres ou de se relier à de se réhabituer aussi quelquefois après un temps de maladie un peu fort au vivre ensemble, justement, comme le nom de cette émission. Et puis il y a aussi les hôpitaux de jour qui sont des endroits aussi. Alors tout ça a des couleurs différentes selon les projets des équipes, hein, mais les hôpitaux de jour où je vais pouvoir venir à la journée pour être soigné, pour être accompagné, pour être suivi. J'aurais envie de dire aujourd'hui que le terme de care, qui est assez à la mode, hein, le terme de prendre soin, à l'anglaise, take care, prendre soin, finalement, effectivement, permet d'étendre des lieux où l'on prend soin des liens sociaux, où l'on prend soin des gens, où on ne leur demande pas d'être autrement que ce qu'ils sont. Et les petites cantines en font partie, un certain nombre d'associations. Voilà, il y a des endroits où on sent que les gens aussi sont... J'aurais envie de rappeler la conductrice de bus dont on a parlé dans la dernière émission de Radio au Passage, où effectivement on sentait qu'elle était sensibilisée, formée presque à accueillir des gens qui peuvent être dans des états quelquefois difficiles. Et donc il y a quelque chose du corps social qui doit s'habituer, qui doit travailler peut-être en profondeur cet accueil de l'autre dans sa singularité.
Oui. Et on peut dire aussi que ça a été un mouvement du soin, c'est-à-dire que au départ il y avait les hôpitaux, on enfermait les gens assez longtemps, et puis il y a un mouvement d'ouverture, et en dehors de l'hôpital maintenant il y a un certain nombre de structures où on peut aller se se soigner selon la pathologie ou selon la demande. Il y a les hôpitaux de jour, on va la journée, les CATTP, on va de temps en temps, etc. Les CMP, on va en consultation. Et puis, un certain nombre de lieux qui sont répartis dans le territoire. Est-ce qu'on peut dire autre chose là-dessus ?
On peut peut-être parler des équipes mobiles qui interviennent beaucoup auprès de nos locataires à Surville,
oui.
Et qui nous, enfin voilà, sont un appui important, des SAMSA.
Qu'est-ce que c'est qu'une équipe mobile alors ? Comment tu le décrirais ?
C'est une équipe de soins avec des soignants qui se déplacent au domicile des personnes, dans leur lieu de vie, pour les accompagner au mieux dans leur vie de tous les jours.
Oui, les SAVS aussi, dont on a parlé ici dans plusieurs émissions. Un service d'accompagnement à la vie sociale. C'est des équipes qui accompagnent des personnes qui peuvent être marginalisées et qui les accompagnent, par exemple, à la sortie de l'hôpital, les gens qui sont assez isolés, et qui les accompagnent pour se réinsérer, si on peut dire, j'aime pas beaucoup ce mot, mais reprendre pied dans la société et dans certains réseaux de la société.
Je crois que même si aujourd'hui on entend souvent beaucoup de choses sur les difficultés que peuvent rencontrer ces lieux de soins pour continuer à porter leur mission, je pense qu'on a quand même, on peut se le dire, énormément de chance dans ce pays, hein, d'avoir une sorte de tissage entre beaucoup d'instances, beaucoup de structures, beaucoup d'équipes qui arrivent à coopérer et qui du coup, je trouve, enfin, créent une sorte de presque de tissu, de soubassement, on pourrait dire, pour que chacun puisse prendre appui. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens depuis 13 ans que je travaille à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une finesse qui se travaille d'année en année pour trouver les meilleures solutions, les meilleures, de nouvelles façons d'accompagner, de soutenir, de laisser chacun vivre ce qu'il a à vivre tout en étant là, pas loin, quoi.
Et maintenant, on va écouter Nathalie, qui a encore un texte à nous lire. Un texte de
Jean de La Fontaine,
oui.
Intitulé « Les deux amis ». Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartient à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux du nôtre. Une nuit, que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne. Il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. N'avez-vous point perdu tout votre argent au jeu ? En voici. » Si vous êtes venu quelques querelles, j'ai mon épée. Allons, vous ennuyez-vous ? Point de coucher toujours seul ? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle ? Non, dit l'ami, ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant, un peu triste apparu. J'ai craint qu'elle ne fût vraie, je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux ? Que t'en semble, lecteur ? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime.
Et voilà, les deux amis. Il y en a un qui se fait du souci, qui se précipite, qui réveille l'autre, et l'autre qui pense qu'il a besoin de quelque chose et qui lui donne tout de suite sa bourse ou une épée pour se défendre. Oui, Cécilia, un commentaire ?
Oh ben, je trouve que Jean de La Fontaine, c'est une langue un peu ancienne, hein, mais j'aime beaucoup le pendant avec Le Petit Prince, parce que Le Petit Prince, l'amitié entre le renard et le petit prince, c'est une amitié à construire, mais qui est une amitié des temps heureux. Finalement, il s'ennuie, ce renard, il cherche un ami, mais ça va quand même bien dans la vie entre ces poules et les humains, là. Alors que là, vraiment, on a la question de l'amitié au moment où ça va mal, au moment où on peut avoir besoin de l'autre, cette espèce d'amitié inconditionnelle, ce soutien inconditionnel, et je pense qu'on peut le rêver encore aussi, que la société puisse la donner, ce soutien inconditionnel à l'autre fragile, à l'autre qui est dans la peine, à l'autre qui est à la rue quelquefois, donc c'est vrai que dans notre société française, on a mis en place ce soutien au-delà de la famille, par des structures sociales, mais qui joue aussi le rôle presque d'amitié, hein, d'amitié sociale, on pourrait dire.
Merci, Cécilia. Alors, on va poursuivre cette émission dans la dernière partie autour des lieux et des projets pour se relier, puisqu'on parle du lien social et comment il se brise, comment il se rompt, comment il se répare. Et avant d'accueillir plusieurs nouveaux invités, on a une pause musicale. Cécilia, vous voulez nous la présenter ?
Ben, on reste sur le XVIIe siècle, Purcell. Hein, on reste sur cette période de La Fontaine que La Fontaine a ouverte pour nous. Et « Oh, solitude » de Purcell, voilà, qui est un très beau texte sur la solitude et le choix de la solitude, contrairement à l'isolement. Et on a une version par Rosemary Stanley et Don La Nena, qui sont deux femmes absolument extraordinaires, qui font vivre cette musique ancienne de façon très actuelle.
On les écoute.
My sweetest choice, oh solitude, oh solitude, my sweetest, sweetest choice, places devoted to the night, remote from tumult and from noise, how ye my restless thoughts delight. Oh, solitude. Mountains too.
Oui, alors on retrouve, après la musique si extraordinaire de Purcell et ses voix qui nous ont portés, c'est la question de la solitude et l'isolement, en fait, qui nous semblait intéressante d'aborder. La solitude, comme le dit très bien d'ailleurs le texte qu'a mis en musique Purcell, c'est quelque chose qu'on choisit, qu'on décide. C'est « j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin de rentrer dans ma chambre, j'ai besoin de sortir ». L'isolement, c'est quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. C'est quelque chose qui s'impose à moi quelquefois parce que j'ai perdu des liens, parce que j'ai des soucis, parce que je suis malade, parce que je ne me sens pas bien. Et je trouvais que c'était intéressant peut-être de commencer cette dernière partie de l'émission par cette question-là. Comment on fait pour sortir de l'isolement, pour aller vers... comment on peut aller vers, justement, sortir, oser sortir, de quoi on a besoin. Alors, autour de la table, on a deux nouveaux participants à ce temps de l'émission. On a donc Aymeric.
Bonjour.
Qui va pouvoir effectivement nous parler de lieux qu'il est allé... où il est allé faire des petits reportages. Et puis, on a Afid. Afid, avec qui je suis allée faire un reportage aussi dans la ville, on en parlera tout à l'heure. La question que je pose, comment vous l'entendez, comment on fait pour sortir de l'isolement? Ça vous est arrivé de vous sentir isolé et de faire un effort? Oui, Marie.
Alors, moi, j'ai eu un petit moment, il n'y a pas si longtemps, pendant... quand il y a eu cette période-là, pendant... par rapport à la politique, je ne vais pas trop en parler, parce que, voilà, mais... j'ai eu une période de 3 jours, ça a été un peu difficile, vraiment très très difficile. J'ai pas été isolé, mais on va dire que voilà, ça a été. J'ai beaucoup stressé, on nous a pris un peu pour des quiches lorraines. Donc après, bah, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, on se bat. Donc l'isolement, après l'isolement.
Et comment tu fais dans ces cas-là ? Tu, y a quelqu'un qui vient te chercher ou c'est toi qui sors de ta chambre ou de ton appartement ?
Alors des fois, ça m'arrive de tourner en rond. Soit je tourne en rond, soit je fais quelque chose sur mon ordinateur ou j'essaie de bouger. Quoi. Après, soit je vais faire mes courses. En fait, c'est très millimétré chez moi parce que bon, en tant que Tessal, j'ai beaucoup de moments où dans ma journée, je fais des trucs et puis quand il n'y a rien à faire, c'est compliqué. Voilà.
Afid ?
Moi, isolé, je cherche pas à m'isoler. Je suis pas isolé. Au contraire, je cherche à m'isoler. Il y a une musique qui est sortie, il y a pas si longtemps que ça. Il y a une musique qui est sortie. Elle dit allô papa, maman, j'ai besoin de m'isoler. Voilà. Et voilà, je m'isole. Moi, où je m'isole, c'est à l'hôpital Saint-Jean-Dieu. C'est eux qui me prennent en charge. On revient à l'hôpital de Saint-Jean-Dieu. Ils me prennent en charge. Et c'est aussi avec l'hôpital Saint-Jean-Dieu, le RHM, que j'ai abouti à mon studio sur Ville. Et ça se passe bien. Je remercie beaucoup les RHM, le SAMSA du Parc. Merci beaucoup.
Ah ben voilà, très belle transition.
Oui, toutes ces structures dont on a parlé tout à l'heure, effectivement, on va continuer à en parler. Ces lieux où on peut se retrouver, juste se retrouver, ou bien un peu plus se soigner. Moi, j'ai posé la question il n'y a pas très longtemps à quelqu'un qui m'a dit, moi, d'abord, je change les draps de mon lit, ensuite je fais le ménage et après je vais au cinéma. Et ensuite tout va mieux. C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. C'est vrai de mettre de l'ordre dans sa vie en fait quelque part et de se redonner les moyens de ressortir comme ça. Ouais, c'est bien.
Mais je trouve que c'est quelque chose dont on a parlé dans ce qu'on a écouté, l'interview, les échanges qu'on a eu à Surville, comment réparer. Il y a un certain nombre de personnes qui disaient que oui, c'est difficile justement par définition quand on va pas bien, c'est justement difficile d'aller vers les autres et de sortir.
C'est pour ça que c'est chouette quand on nous a déjà indiqué des chemins pour sortir, pour aller vers ce qui se passe ailleurs, parce que le cinéma, il faut déjà connaître. Hein. Et si on cherchait des lieux de réparation, hein, c'est un peu les questions qu'on s'est posées, donc on va explorer quelques lieux où il fait bon aller pour retrouver les autres, pour se relier à nouveau.
Exact.
Je crois que Aymeric est allé...
Alors exactement, je suis allé interviewer 3 personnes du GEM, donc du GEM Partage, où je vais très 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 régulièrement.
Qui se trouve où ?
À Villeurbanne, la rue des Deux Frères, il y a un petit arrêt de tram, vous tournez à gauche et puis c'est tout de suite après.
Tu n'y es pas allé seul?
Alors, non, j'y vais souvent seul.
Oui,
là, récemment.
Pour l'interview,
je Alors, pour l'interview, je ne suis pas allé seul. Je suis allé avec mon acolyte Julien. Donc, on a interviewé deux femmes et une personne, et un garçon. Dont la personne est très 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 investie. C'est une personne qui on adore et qu'on admire et que j'admire énormément. C'est un diamant, une perle dans notre gemme. Ouvrez grand les oreilles et je vous invite à écouter ces reportages.
Merci Aymeric et Julien. On va écouter ces interviews que vous êtes allés faire au gemme. Partage.
Bah, bonjour Cécile.
Bonjour Cécile.
Bonjour.
On est ici dans le GEM Partage pour une interview spéciale sur la semaine de la santé mentale. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on fait dans le GEM Partage ?
Alors, le GEM Partage, c'est une association qui a été créée dans le cadre de la loi 2005 concernant le handicap pour, en fait, le groupe d'entraide mutuelle. On a un cahier des charges spécifique et le but des GEM, en fait, c'est de réunir des personnes qui sont touchées par un même handicap ou un même trouble psychique et aider en fait ces personnes-là à acquérir de l'autonomie, à s'assurer en fait qu'elles ne se retrouvent pas isolées socialement et du coup en fait favoriser l'entraide entre pairs.
Ça veut dire quoi entre pairs ?
Entre personnes qui partagent un même, dans notre cas par exemple, c'est le même handicap, donc l'autisme.
Qu'est-ce qu'on fait dans un GEM, on va dire, comme atelier ?
Alors, pour justement aider les personnes à acquérir de l'autonomie et à créer du lien social entre elles, en fait, on utilise notamment les activités et les sorties. Donc les activités, ça peut être culturel, artistique, sportif ou ludique aussi. Les sorties, pareil, peuvent être dans un cadre sportif, culturel. Et en fait, le but de l'association, en fait, les activités, elles servent plus de terreau pour que les personnes puissent se rencontrer et du coup, en fait, au travers de ces activités, apprendre à se connaître que réellement, en fait, uniquement faire des activités pour s'occuper la journée.
Alors, une autre question que, aussi, c'est... qu'est-ce qu'on répare socialement dans un GEM ? C'est le thème. Qu'est-ce qu'on répare socialement dans un GEM ?
En gros, je pense, ce que tu cherches à me demander, et tu m'interromps si je me trompe, ce que tu cherches à... Enfin, ta question, c'est comment dans un GEM, on répare le lien social ? Alors, donc, comme je parlais des activités, en fait, les activités, elles vont servir de... Comment ? De terrain pour se rencontrer et créer des amitiés en fait au travers de différents intérêts communs qu'on a par ces activités. Vu que les personnes autistes ont tendance à être très facilement isolées socialement parce que c'est un trouble qui fait qu'on a du mal à se faire des amis pour une variété diverse de raisons, les activités en fait vont s'assurer que on se rencontre dans un lieu où en fait il n'y a pas la pression de l'interaction sociale, et donc en fait ça va nous permettre d'établir des amitiés les uns avec les autres sans avoir en fait cette pression de l'interaction sociale et des règles sociales qu'il faut absolument respecter qui sont souvent très souvent implicites.
J'ai une dernière question après on fera le tour de la table.
Okay.
Comment tu vois dans le futur les liens sociaux en général ?
Alors, c'est super vaste comme question, parce que les liens sociaux, il y en a plein. Tu ne vas pas avoir le même lien et la même dynamique sociale, par exemple, avec ton médecin, avec ta famille, avec une relation amoureuse, avec des amis, avec des collègues. Donc du coup, est-ce que, par exemple, si on s'interroge vis-à-vis des personnes autistes et, par exemple, de leur entourage non-autiste, est-ce que, par exemple, plus d'éducation autour de l'autisme et comment ça se présente pour qu'en fait, les personnes qui sont autour de nous, que ce soit nos aidants, nos amis, notre famille souvent, toutes les personnes en fait, avec qui on est amené à interagir, puissent faire en fait preuve de plus de compréhension et en fait puissent plus facilement faire un pas vers nous en fait pour s'assurer que on évite de se retrouver surstimulé en burn-out ou d'autres choses très très désagréables. Donc je pense qu'en fait la progression des liens sociaux et du coup l'amélioration des liens sociaux et de la dynamique sociale qu'ont les personnes autistes avec les gens de leur entourage passe énormément par l'éducation et la sensibilisation au fait aux problématiques des personnes autistes.
Merci d'avoir parlé de tout ça. On va passer le micro à Olivier. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un gène ?
Ce que c'est qu'un gène, ce sont des personnes qui se réunissent et qui ont, on va dire, des caractéristiques communes, notamment sur le plan problèmes de santé ou juste des quelque chose qui, oui, qui, sans que ce soit vraiment un problème, nécessairement, mais qui, ouais, qui se sentent un peu marginalisés dans la société. Donc voilà, ils se réunissent pour essayer d'être plus forts ensemble.
Deuxième question que j'aimerais poser, qu'est-ce qu'on fait dans un GM ?
Beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités, hein. Il y en a beaucoup assez bien.
Qu'est-ce que toi tu préfères comme activité par exemple ?
Moi, ce que je préfère, ça limite beaucoup déjà. Ici par exemple, une chose que j'aime bien, c'est discuter de choses un peu difficiles, comme au Café Philo par exemple. Dans le GM en Valais Compagnie, l'activité qui me retient dans ce GM, parce que là, il me plaît moins que celui-ci, c'est l'activité de couture. En fait, les compagnies, c'est pas ici. C'est un autre gène qui est aussi d'ailleurs à Villeurbanne, mais plutôt à la frontière de Vaux-en-Velin. Et pour ce gène-ci, là, comme je le disais il y a un instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est les activités, on va dire, on peut discuter de choses un petit peu difficiles, comme un café philo, par exemple. Et autres, hein, y a pas que ça. Mais...
Moi, je vois que tu viens souvent dans les... J'ai remarqué que tu venais souvent dans les sorties au GM...
Culturelles.
Intellectuelles,
oui.
Moi qui ai également du GM aussi. Voilà.
Oui, j'en ai fait quelques-unes sorties, oui. Peut-être que maintenant j'en ferai un peu moins.
Et pourquoi ça, exactement ?
Parce que là, je renoue avec un projet ancien, mais pas...
Professionnel ?
Qui peut avoir un débouché de pro, mais qui n'est pas laissé.
Ok, d'accord. Donc, dis-nous tout.
Là, je vais me relancer en thèse. Donc,
en quoi ?
En thèse, doctorat.
Oh ! Eh bien, tout ça a l'air très bien, ça. On va t'appeler docteur.
Docteur
Olivier avec le petit.
Voilà. Il faut déjà 3, 4, 5 ans pour que je me fasse la foule de suite. C'est pas. Une thèse, ça prend 8 ans, hein. Ça prend pas en 6 mois. C'est pas officiel, hein. Il faut que je trouve des directeurs sur deux matières si je trouve possible. Mais bon, en tout cas, c'est un problème. C'est quelque chose de très particulier. Je crois que je suis seul, hein, dans ce cas de figure. En tout cas, à ma connaissance. Hein, c'est pas très fréquent parmi les personnes qui fréquentent les jeunes.
Troisième question. Qu'est-ce qui est pour toi la réparation sociale ?
Réparation ? Ça veut dire qu'on est endommagé, là. C'est pour réparer. Faut bien préciser une chose, c'est que les GM ne sont pas des lieux thérapeutiques. C'est social, c'est pas thérapeutique. Il n'y a pas de rendez-vous avec des spécialistes, médecins ou autres. Non, c'est pas l'objet du GM. Hein.
D'ailleurs, je crois qu'on m'avait dit que les personnes au GM s'appellent des facilitatrices, je crois qu'on m'a dit.
Oui, il y a différents. On peut dire aussi animateur, animatrice, il y a différentes. En Valais Compagnie, c'est plutôt animateur. Ici, c'est facilitateur. Dans d'autres GM que je connais, mais je ne suis pas inscrit, on est plutôt animateur et ça varie.
Dernière question, est-ce que tu aimerais changer quelque chose dans tes rapports sociaux ou un truc comme ça ?
Oui, j'aimerais changer beaucoup de choses dans mes rapports sociaux, hein, c'est sûr. Ouais, j'ai très très peu. J'ai un cercle de connaissances très très étroit. Il peut dire dans cette pièce.
Merci à toi, Olivier, et merci d'être passé, et à tout ce petit monde qui nous a gentiment parlé avec nous.
Merci.
Merci, merci.
Vivre ensemble.
Merci, Aymeric et Julien, pour ce petit reportage où j'aime un groupe d'entraide mutuelle. Aymeric, un mot à rajouter ?
Alors, je vois que moi, pour le GEM, j'ai une très grande expérience. Ça va faire 3 ans que j'y suis. Et je sais que Julien, on a oublié quelqu'un, mais je crois parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps. Mais en tout cas, moi, j'adore ce GEM et je ne suis pas prêt à le quitter parce que quand je vais au GEM, c'est comme si j'allais au boulot. C'est comme si j'allais au boulot, c'est comme... c'est ma vie. Le GEM, c'est ma vie, c'est la vie, c'est...
Voilà, en imaginant que c'est un boulot... Sympa, intéressant.
Oui, c'est pas payé, mais c'est sympa.
Julien, un mot à rajouter ?
À défaut d'être un véritable boulot, moi, je trouve que ça porte une vocation. C'est vrai, moi, j'ai passé un bon moment avec toi, Aymeric, et je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait réitérer ensemble.
Pourquoi pas ?
Peut-être voilà. aussi dire qu'on n'a pas pu, par le montage, entendre Marguerite, mais qui avait été interviewée, et qui avait une belle participation aussi. Peut-être qu'on la réentendra une autre fois.
Alors, il y a bien sûr d'autres lieux où on peut se retrouver. Et Nathalie avait envie de nous dire quelque chose.
Alors, j'ai envie de vous lire une citation de Serge Pogam, qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur le lien social. « Les bibliothèques ne sont pas des services sociaux, et pourtant, elles rendent aux pauvres des services que l'on pourrait qualifier de sociaux. Les bibliothèques sont des lieux d'accueil où on peut séjourner un certain temps, lire la presse, et sans forcément être abonné. Et il y a des bibliothèques qui ont la présence de gens vivant dans la rue, qui viennent dans la journée se poser, lire.
Oui, merci Nathalie de nous avoir rappelé ça.
C'est très très bien, parce qu'en plus, je crois que les bibliothécaires sont des gens très militants qui militent pour un accueil inconditionnel dans les bibliothèques.
Merci Cécilia. Et Cécilia, vous êtes allée voir aussi un endroit où on fait des choses, on se retrouve et on fait des choses.
Voilà, on est allé avec AFID à Villeurbanne aussi. Oui. Décidément, Villeurbanne est un lieu de lien. Et on a été rencontrer toute une équipe et des bénévoles d'une association qui s'appelle le C-Club. Et c'est d'ailleurs une bibliothécaire qui m'a mis en lien, Stéphanie Bois.
Oui. Et on va écouter ce reportage sur le C-Club.
Alors moi, je m'appelle Mathieu et je travaille ici. Donc j'accompagne les personnes qui viennent bricoler. Et voilà.
Les gens qui viennent chez vous pour apprendre des vélos, vous les connaissez, c'est des amis ou c'est extérieur?
Alors c'est ouvert à toute personne qui souhaite réparer son vélo par elle-même et qui vient adhérer en fait à l'association pour un an. Et ce qui lui permet d'utiliser les outils de l'atelier, d'acheter des pièces ici si besoin, neuves ou d'occasion. Ici, on ne vient pas forcément que réparer son vélo, puisqu'on organise pas mal d'événements aussi. Et puis, les gens sont amenés à se rencontrer, à s'entraider dans les réparations, à devenir bénévoles également pour aider toutes les actions de l'association, soit nous aider à tenir l'atelier, etc. On partage la table assez fréquemment. On a même un cuistot bénévole 2 jours par semaine.
C'est cool.
Voilà. Donc le lien, il se fait à travers tout ça, quoi.
Vous travaillez, vous êtes bénévole?
Je travaille aussi. D'accord. On est 3 salariés en réalité. Il y a Mathieu, donc moi, Brigitte et mon collègue Fred que vous voyez là. Et donc en fait, l'association elle est gérée par un collège de bénévoles. Donc on a une dizaine de bénévoles qui organisent en fait la vie de l'association. Et on a 3 salariés à plein temps qui sont là pour tenir les permanences, réparer les vélos, gérer le lieu, faire des formations à l'extérieur, parfois dans nos locaux. Voilà. Chez nous, il y a une première chose, c'est que les personnes qui viennent, ce sont des adhérents et adhérentes de l'association. La grande majorité des adhérents, des adhérentes, sont des gens qui sont vraiment des gens, je sais pas, je crois qu'il y a dans un rayon de 300 mètres, il y a peut-être 70% des adhérents adhérentes. C'est vraiment, en termes de vie de quartier, quelque chose d'important. On est très en lien aussi avec des partenaires qui sont dans le quartier, par exemple avec LMH ou Aliad Habitat, on fait des interventions pour les gens qui vivent dans les résidences LMH ou Aliad. On a aussi des jeunes du foyer qui viennent chez nous. Donc c'est vrai que l'atelier du C-Club est hyper ancré dans la vie locale.
Moi c'est Léka. Ça faisait longtemps que je connaissais l'asso que je repoussais un peu les problèmes du vélo toujours plus loin. Je faisais quelque chose dans mon appart, mais en vrai, ici, il y a quand même plus d'outils, plus de place. C'est moins grave si tu mets de la crasse partout, donc c'est plus pratique. Et en plus, y a des bons conseils, et ils organisent des événements aussi. Donc c'est chouette, il y a un peu de tout.
Il y a beaucoup de plus en plus d'adhérents, de plus en plus de bénévoles, de plus en plus de vélos. On s'ennuie pas.
Elle est droite, là?
À peu près. Je peux regarder? C'est un centreur de roue, vous voyez? Donc ça vous permet de faire travailler le voile. Vous voyez, quand une roue va de droite à gauche, on arrive à la redresser en serrant ou desserrant les rayons. Donc là, on a des palpeurs que je place sur la jante et je cherche un frottement. Et quand j'entends, là, elle n'est pas droite. Ça veut dire qu'à un moment, elle part sur le côté. Donc je travaille avec une clé à rayon. Je vais chercher le point où ça frotte. C'est ici. Donc c'est à gauche. Donc je vais venir tendre les rayons de droite. Donc là, je vais tendre. Ou je peux détendre aussi du côté que ça touche un peu des deux. Et là, ça touche plus. C'est magique. Et après, petit à petit, la roue, elle devient droite. Parce que plus je resserre mes palpores, plus la roue elle tourne.
Mais là, c'est acceptable, là.
Ouais, voilà.
Ça roule, là.
Ouais, voilà.
Bon. Parce qu'il y a il faudra pas plus aujourd'hui.
On peut aller, oui. Si on est patient, on peut vraiment redresser une roue. Et des fois, elles sont trop tordues. On peut pas. Oui, alors on recycle, on travaille en partenariat avec une entreprise qui recycle nos déchets. Et donc ils nous fournissent des bacs, on met tout dans des bacs et eux viennent nous les chercher. Donc avant on triait, mais on allait malheureusement à la déchetterie. Que là on valorise nos déchets, donc on est content. On s'enrichit pas avec ça, hein, ils nous payent pas énormément. Bah, ils nous fournissent les bacs, ils viennent nous les chercher, et on n'a même plus à trier. Par exemple, nous, nos vieux vélos, là, on essaye de récupérer le maximum. Mais nous, on est plutôt spécialisés, vous voyez, dans les vieux vélos.
La vieille marchandise tient plus le coup que, à mon avis, tout ce qui sort dans cette société de consommation un peu trop poussée pour moi. Donc moi, je suis bénévole dans l'association depuis bientôt 9-10 ans et je fais partie aussi du conseil d'administration. Je m'occupe un peu plus de l'événementiel, c'est-à-dire on fait au moins une à deux bourses à vélo annuelles. C'est-à-dire que Manfred vous a expliqué, on fonctionne par don, on répare les vélos avec d'autres pièces détachées qu'on vend, à des prix quand même assez modiques. Mais une à deux fois par an, on fait une spéciale bourse à vélo, c'est aussi la fête de l'atelier. Et donc on vend des vélos. Sinon, c'est un lieu de rencontre, je dirais, sociétal assez important. Ici, il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'ouvrier, il n'y a pas de... On est tous les mains dans le cambouis. Alors c'est un atelier d'autoréparation, si vous venez, c'est vous qui faites, on vous aide. On ne vous laisse pas repartir avec votre vélo défaillant. On est environ 750 adhérents. Moi, je suis plus spécialement chargé de l'animation et aussi de tout ce qui est récupération de vélos. Donc voilà, on fonctionne uniquement et principalement par don et après on les retape. Voilà. La mécanique vélo, c'est pas compliqué, pas très difficile. Mécanique voiture, c'est un peu plus sophistiqué, notamment avec l'électronique et tout aujourd'hui. Mécanique vélo, c'est assez basique et ça s'acquiert assez vite.
Vivre ensemble.
Merci pour ce reportage à l'atelier réparation de vélos. Alors cette émission est bientôt terminée. On a parlé de liens. Oui, Afid, vous voulez nous dire quelque chose sur ce reportage ?
Oui, moi ça m'a beaucoup plu où on était cycliste les vélos. Et la rue, elle s'appelle comment la rue ?
De l'amitié.
La rue de l'amitié, on parlait avec la personne là-bas. Je dis, c'est le lien social, l'amitié. Et voilà, ils ont été très généreux, ils nous ont payé à boire. On était contents aussi de les avoir trouvés. C'est pas comme premier rendez-vous, on a eu un raté, mais bon. Voilà.
Et là, on avait l'impression que ça rassemblait tous les ingrédients là, de la réparation. Réparer le vélo, réparer le lien, vivre ensemble, faire
exactement,
ensemble
vivre
des
ensemble.
Choses.
Merci beaucoup les studios, merci beaucoup.
Voilà, cette émission est bientôt terminée. On a parlé du lien social, comment il se crée, comment il se construit. Comment il se casse et comment il se répare. Alors, pour terminer, on écoutera Pierrot de Loïc Lantoine qui parle de l'amitié et du soutien dans les moments de peine. Mais avant ça, je laisse la parole à Cécilia et Julien pour conclure cette émission qui sera rediffusée dimanche.
Eh bien, heureux de l'entendre. Cette émission est une action de la Fondation ARHM proposée dans le cadre de la CISM 2025. Elle a été conçue entre le 11 septembre et le 8 octobre 2025 par l'atelier Radio Passage dans l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, en partenariat avec l'équipe de la résidence Accueil de Surville.
Ont participé au projet Émeric, Catherine, Cécilia, Fatia, Guillaume, Afid, Julien, Maroula, Mathis, Messali, Myriam, Nathalie, Philippe, Rémi, Sabine, Samantha et Zaya. Nous remercions chaleureusement celles et ceux qui nous ont reçus et ont contribué à notre réflexion. Sandrine Arreau, infirmière au CMP de Vénissieux, Cathy et Marc Zimmermann, pédopsychiatres, Cécile, Olivier et Marguerite du GEM Partage, Mathieu, Brigitte, Léka, Fred et Philippe du C-Club de Villeurbanne.
Coordination, animation et montage, Cécile Devarine du service d'action culturelle de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu et Catherine Imhoff, bien sûr, animatrice de l'émission Vivre Ensemble à Radio Pluriel. Merci à Guillaume Deschamps et Philippe Amry du Pôle Logement pour leur participation, implication et soutien. Merci à Stéphane Bois du C-Club.
Et merci à François pour nous avoir accompagnés tout au long de cette émission très riche et très dense. Et on termine avec Loïc Antoine.
Dans ma caboche, les soirs où tout est un peu moche, où même un sourire devient louche, où je brise tout ce que je touche. Avis devant, devant ma vie, les paupières en parapluie. Y a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit, dans un sourire, quand je sais plus où faut qu'on s'engage, que je tremble autant que j'orage. Quand je recompte mes défauts et les jours où je siffle faux. Quand je me sens suant, sale et seul, avec la gueule de traviole. Y'a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire. Quand j'hurle dans un mauvais roman, que je me mens chaque moment. Quand je me sens fiston sans papa, quand ça va pas frère, ça va pas. Y'a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire.